D'ailleurs, c'est quoi le regard que tu portes sur tes frères là?
Je souhaite de tout cœur qu'ils aillent le plus loin possible et je suis fière d'eux.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, monsieur.
Oui, mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Un nouvel épisode. On est après Hot Rod. On est dans un endroit un petit peu spécial qui a aussi sa particularité. Ben, on est des Alsaciens. On ne peut pas faire comme tout le monde, hein. On est obligé de faire des choses un petit peu différentes. Salut Adrien, comment tu vas?
Salut Mickaël, ça va très bien, super. Alors,
c'est vrai que tu n'étais pas au trot?
Non, je n'étais pas au trot. J'ai un peu plus marché que, effectivement, ce que vous avez fait au trot. Mais ça m'a bien donné envie, ces ribs, c'est tout ce barbecue.
Et ouais, t'as raté quelque chose. Mais en tout cas, pour te punir, on t'a fait marcher un petit peu là. Depuis une demi-heure, on a fait une belle montée. Si je te dis Pierre Sacré, tu me dis...
Sacré-Cœur.
Alors, je recommence. Si je te dis Pierre Sacré, tu me dis un Alsacien
Stein.
C'est quoi lui la journée Kopfetegli
Kipfer de Kirchberg de Bar.
Non, on habite où?
À Klevener d'Aligenstein.
Non, on habite où?
Quoi?
On habite où? C'est quoi le nom du village? T'as dit Klevener.
Heiligenstein, ouais.
Alléluia, alléluia. Et oui, nous sommes à Heiligenstein, ce qui veut dire pierre sacrée en alsacien. Et ouais, tu le savais pas?
Bah maintenant, si.
Maintenant, tu le sais. Donc après Hautrotte et Saint-Odile, Heiligenstein, punaise, on va expier nos péchés. Hein.
Ouais, non, mais c'est magnifique. On a besoin, je pense, un petit peu.
Je pense qu'il va démissionner, le Saint-Père, là-haut. En plus, il y a Saint-Pierre pas loin, tu vois. Alors, il y a aussi Fanny qui est là. Alors, Fanny qui était là au vignoble du Rêveur.
Hey, salut!
Comment tu vas?
Ça va bien.
T'es remise du vignoble du Rêveur?
Du vignoble du Rêveur, oui, oui, je me suis remise de la montée aussi. Tout va bien, on est dans un lieu magnifique. Il y a de quoi être heureux.
Alors, on est à Heiligenstein, mais on a marché jusqu'à Bar parce qu'il y a très longtemps, j'ai vu sur les réseaux sociaux une star en train de naître. Alors, c'est pas Justin Bieber. Mais j'avais entendu parler de ces vins et j'ai trouvé ces vins plutôt pas mal. Et je me suis dit, tiens, et si on allait le voir? Salut Clément.
Salut.
Comment tu vas?
Ça va bien, et vous?
Tu me vois maintenant?
Ah, ça y est, merde. Je pense que j'ai parlé à tout le monde. Ça va bien.
Alors, on avait envie de te rencontrer. Il y en a un qui fait bande à part. Tu peux t'approcher, Sylvain, là? Parce que tu. Mais c'est pas grave, je peux courir aussi. Salut Sylvain.
Salut.
Alors, nous, c'était important de vous rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il y a. Il y a quelque chose de différent, c'est que c'est la première fois qu'on a des frères jumeaux. Première particularité, c'est plus intéressant. Et puis, vous faites partie des trois plus jeunes, puisqu'il y a eu Théo Einhardt, il y a eu Pierre Engel. Ça fait quoi d'être parmi les jeunes pousses?
Ça fait plaisir, ça nous fait du bien quoi, de donner un petit peu une impression de nouveauté pour l'Alsace.
Et ouais, c'est ça qui est important. Alors, ce que je vous propose, c'est que pendant cette interview, on parle de votre domaine, on parle de l'histoire de votre domaine, et puis après, bah, on parle aussi du Klevener, parce que c'est important qu'on parle du Klevener. T'avais bu du Klevener avant?
Sans doute dans ma jeunesse, mais j'en gardais pas un souvenir immémorable et magnifique en tout cas. Donc c'est parfait, c'est comme le rouge de trotte, des mauvais a priori, et puis on est là pour démonter ça.
C'est pour ça qu'on fait le podcast finalement.
Ouais, pareil, souvenir d'un truc un peu sucré, un peu étrange, un peu, bon voilà, sans grand intérêt, et on a pris une petite claque, c'était bien.
J'avoue, alors on a commencé, on dit tout, nous on est très transparents, on a commencé avec une tarte flambée au feu de bois s'il vous plaît, donc c'est des vrais Alsaciens, ils méritent d'avoir la carte d'identité alsacienne, parce que la tarte flambée, la flamme que ça ne se mange qu'au feu de bois, Kopfglemi normal, hein, tu es d'accord ou pas?
On est d'accord.
Ouais, à un moment donné, il faut arrêter de déconner, on met pas de dinde, on met pas de fromage de chèvre, on met des lardons de porc et des oignons, un peu de maïs circasse.
Il y a vol.
Alors, on va commencer par l'histoire de votre domaine parce que je crois que ça fait pas quelques années que vous existez à Heiligenstein. Hein, je crois que c'est une grande lignée.
Voilà, c'est une grande lignée. Ça a commencé dans les années 60-70, si je me trompe pas. Et du coup, c'était les grands-parents à l'époque qui avaient pris justement le domaine, enfin qui ont fondé le domaine. Bah, comme quoi ils étaient bûcherons avant, quoi, avant de faire la vigne, quoi. Enfin,
donc en fait, ils étaient dans cette...
C'était avec le frère du père, enfin du grand-père, quoi, qui sont montés la boîte, quoi.
C'est un peu, on est encore un peu dans cette histoire où à l'époque, le Mignon était un peu en polyculture. Certains élevaient des bêtes, d'autres faisaient... Il n'y avait pas que de monoculture aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'en monoculture.
Ouais, là, actuellement, on est que en monoculture. Hein. C'est vrai qu'on a encore une petite partie en forêt, mais c'est plus personnel, avec quelques vergers derrière.
Ah ah, donc ça veut dire qu'il y a du cygne qui va arriver ?
Ah, peut-être, sûrement, ouais. Ou ouais, du poiré, peut-être.
Ah, tu vas avoir du cidre bio bientôt, c'est cool.
On attend ça, déjà Arthur Beaune nous en a promis, donc on a hâte de pouvoir goûter tout ça en Alsace.
Moi, je pense que dans quelques années, on va fermer l'Alsace, on vivra en autarcie, on a nos vins, nos bières, notre flotte, donc pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, bah, les animaux, on peut les élever aussi. Allez, vivons, on ferme les frontières.
Ouais, on peut fermer les frontières, là, surtout que économiquement, je pense que l'Alsace s'en sortirait bien.
C'est quoi ton parcours ? Donne-moi ta carte d'identité.
Alors, ma carte d'identité, du coup, j'ai fait un cursus en paysagisme au lycée agricole de Aubernay. Et ensuite, j'ai rejoint le domaine en 2015.
Attendez, je demandais à l'historienne de la bande, quelle année ?
2015.
Et qui es-tu, toi ?
Gaëlle Charlotte, la sœur de Clément et Sylvain.
J'ai vraiment l'impression d'être Jacques Martin, moi.
Et ensuite, du coup, j'ai rejoint le domaine familial, du coup, suite à quelques problèmes de santé du côté du papa. Donc, il avait besoin d'aide au domaine et il se sentait pas prendre un ouvrier et ne pas avoir confiance en lui. Donc, il a préféré que j'intègre le domaine. Et puis, moi, ça me plaisait de travailler dehors et de pas être à la botte d'un patron, on va dire. Et du coup, suite à ça, j'étais pas encore vraiment dans la vinification avec lui. Je secondais, en fait. Et puis la vinification est venue plus tard au domaine suite au décès du papa.
Si tu as fait du paysagisme, c'est que tu imaginais peut-être faire autre chose, du coup, que reprendre le domaine ? C'était ça que tu voulais au début ?
Ouais, j'ai toujours été dans un environnement où, justement, très nature, très orienté, fleurs et tout ça. Enfin, je m'intéressais vraiment à tout ce qui était plantes et travaux manuels, parce que je suis quand même un peu plus manuel que comptable, on va dire.
T'es bon commercial aussi, il paraît.
Ouais. Non, c'est vrai que sur la vente, bah, en fait, ça s'est fait au feeling, enfin avec les personnes. C'est vrai que j'étais pas forcément très à l'aise avec tout le monde au début non plus.
Ce qui est normal.
Oui, ce qui est normal. Et puis après, c'est vrai que dès qu'on est jeune et tout, on n'est pas forcément pris au sérieux par tout le monde. Donc voilà, après, faut essayer de se mettre en main et de devoir y aller. Parce que comme dit, c'est pas en restant reposé sur ses lauriers qu'on peut avancer.
Bah, c'est sûr. Et toi, c'est quoi ton parcours ?
Bah, j'ai fait l'école à Roufac en CAP, quoi. Apprentissage et voilà, quoi. J'ai toujours été dans la vigne, quoi, depuis petit, quoi, comme mon frère. Ouais. Chaque fois, on allait aider le père dans les vignes, quoi.
Ok. Ouais. Et toi, t'es plutôt manuel, hein. Toi, t'es pas trop.
Ouais, je suis quand même plus manuel que dans les bureaux et tout ça, quoi.
Tu préfères le marteau au stylo, ça ?
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est bien résumé, non ?
Hein ? Le sécateur, c'est peut-être mieux que le marteau. Hein.
Le sécateur, ouais, parce que le marteau dans la vigne, ouais. Je suis pas persuadé. Du coup, les frères, vous avez repris le domaine en quelle année ?
On a repris le domaine en 2019. Hein. Alors, en janvier 2019, c'est ça, ouais. Janvier 2019. Ouais. Donc, à partir de là qu'on a fait notre première cuvée, qu'on a retravaillé tout dans la vigne. On peut pas dire ça parce que, en fait, mon père avait déjà une lutte assez raisonnée dans tout ce qu'il faisait, quoi, mais le vrai raisonné, quoi. pas la personne qui disait qu'il était raisonné et qui disait, voilà, je mets du désherbant, je suis raisonné et je fais tout et n'importe quoi. Lui, il avait déjà supprimé tout ce qui était des herbes chimiques 5 ans avant qu'on reprenne le domaine. Donc, ce qui nous a permis aussi qu'à la vigne, on n'ait pas vraiment de grosses évolutions nécessaires à faire par rapport à quelqu'un qui passe du jour au lendemain à plein de chimie et qui a des grosses baisses de rendement. Du coup, ouais, dans la lutte dans les vignes, en fait, pour en revenir, ouais, c'était plus facile pour nous de reprendre une exploitation où est-ce que ça travaillait, on va dire, plus sainement que quelqu'un qui va et qui dit le packaging et ce qu'il faut mettre dans la vigne, quoi. Enfin, Du coup, au niveau de tout ce qui est traitement et tout ça, il utilisait déjà des produits dits de biologiques, tout ce qui est cuivre, sulfate de cuivre, soufre et tout ça, c'est déjà des produits qu'il utilisait. Et puis après, il a aussi utilisé des produits de synthèse. Hein, ça, je peux pas. Voilà, il a eu aussi des problèmes de santé suite à ça. Donc, qui lui a fait mettre une pneumonie, et je pense que c'est aussi peut-être dû à ça qu'il a arrêté tout ce qui était produits chimiques après.
Mais dans cette histoire un peu tragique, etc., comment le grand saut n'a pas été, enfin ça n'a pas été vertigineux, enfin pour vous deux quoi. Parce que partir, parce que dans d'autres domaines, il y a cette continuité, il y a cette transmission que finalement qui a eu lieu, mais pas peut-être pas jusqu'au bout.
Ah, ça s'est pas fait naturellement comme on l'aurait voulu en fait, parce que oui, c'est vrai que l'histoire en fait, enfin comment on a repris le domaine et comment a fini tragiquement, enfin la génération justement de Gérard Gup, mon père quoi, ben ça s'est pas comment expliquer ça, ça s'est fini assez tragiquement par rapport à ça, donc c'est vrai que le domaine, on aurait peut-être voulu que le papa soit encore là et que malgré tout, même s'il n'aurait peut-être pas été d'accord sur tous les points de vue, sur tout ce qu'on a changé quand même, parce que c'est vrai qu'on a changé vraiment pas mal de choses, on aurait peut-être voulu quand même qu'il soit encore là pour nous donner pas forcément un coup de main, parce qu'il avait aussi besoin, je pense, de prendre sa retraite enfin, de prendre un peu du recul, quoi.
Ah, je trouve que alors dans votre histoire que je connaissais, on avait même partagé un petit peu l'histoire, mais je trouve que le côté résilience, la force, enfin, en goûtant les vins, la force, la résilience que vous avez eue, moi je sais pas, je trouve qu'il y a un courage de se dire bon, on va se relever, même si c'est pas facile, et je sais pas si moi j'aurais été capable ou j'aurais eu ce courage-là. Donc rien que pour vous, moi je trouve que vous avez du courage de fou, et c'est plutôt une bonne chose.
Après, c'est vrai que c'était pas évident, hein, parce que c'était un moment où est-ce que les vendanges approchaient, c'était enfin le décès de mon père est venu assez brutalement, c'était en juillet, on était à quoi, un mois et demi des vendanges, on n'avait pas fait de vinif, on va dire, jusque-là, tout seul quoi, enfin sans assistance, et puis, ouais, ça s'est fait que voilà, on était un peu stressé, et puis pas forcément avoir la volonté derrière de rentrer du raisin, parce qu'en un mois, se remettre à travailler après.
C'est pour ça que je parle de courage, et moi je suis pas persuadé que je l'aurais eu, je sais pas.
Mais après, on a eu pas mal d'aide avec du Oenologie aussi, qui nous ont pas mal aidé, quoi, pour les vins nature, quoi.
Donc il y a une vraie vraiment.
En fait, mon père était à la Confédération paysanne, donc c'est quelque chose qui est assez, enfin qui est, c'est des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit sur n'importe quel sujet agricole, on va dire, ou viticole. Et du coup, il était assez présent dans cette Confédération paysanne et où les amis de la Confédération paysanne. Et donc suite à ça, ben on a gagné pas mal de contacts parce qu'il était quand même fortement connu dans ce secteur-là, quoi, toujours présent, parce qu'il connaissait mon père, c'était un bosseur, voilà. Et donc suite à ça, il connaissait des journalistes forcément, David Lefebvre ou des personnes comme ça qui sont assez ancrées dans le monde du domaine viticole, et ce qui nous a permis en fait d'apprendre un peu différemment les choses, d'appréhender différemment les choses, d'avoir des contacts aussi derrière, des personnes comme Florian Hardweg ou des personnes comme ça, des vignerons dans le domaine des vins nature qui est d'ailleurs un milieu pour nous un peu plus humain, on va dire que.
Donc ils ont vraiment été derrière vous, ils vous ont vraiment donné un coup de main, cette solidarité, tu l'as ressenti. Donc finalement, à parler Arthur et d'autres, qu'on nous raconte, et que nous on voit aussi, hein, on va pas se raconter d'histoire, cette solidarité était vraiment là pour vous.
Ouais, c'était vraiment là pour nous tout le temps. Et puis après, il y avait la solidarité physique et surtout la solidarité morale aussi derrière, quoi. Donc c'est vrai que on a eu aussi la chance pour cette première vendange d'avoir la Confédération paysanne qui s'est ramenée pour nous fournir une aide solidaire au niveau des vendangeurs. Parce que c'est vrai que derrière cet accident, enfin derrière cet accident, il y a aussi eu, il y a eu un tas d'événements, en fait, une accumulation de choses qui nous a pas permis de forcément préparer la vendange 2019 tout de suite, quoi. Au niveau des trésoreries, enfin, il y avait plein de choses qui allaient pas en Alsace. Alors on s'est retrouvé à l'époque de mon père avec du vin en vrac et qui trouvait pas preneur parce que à cette époque-là, l'Alsace produisait 80 hectolitres hectares et au final, on n'en vendait que 65, quoi.
Donc tu penses donc les choses. Moi, c'est, je tiens quand même à souligner ce côté vraiment solidarité entre les vignerons. Je trouve qu'elle est saine. Alors dans votre histoire tragique forcément, mais je crois que finalement ça conforte encore le choix qu'on a fait, hein, de soutenir ces vins-là.
Oui, complètement. On sent qu'il n'y a pas de concurrence de toute façon entre les vignerons qui travaillent comme ça et que tout le monde a envie d'aller dans le même sens et de mettre en avant les différents terroirs alsaciens et cette façon de faire là, quoi. Du coup, toi, qu'est-ce qui vous a motivé à faire des vins nature ? Enfin, pourquoi vous avez fait ce pas-là d'aller dans cette direction ?
C'est toi qui as l'idée ?
L'idée est venue quand même parce qu'on a goûté des vins nature, puis ça nous parlait plus, et puis en fait en faisant des vins nature, on crée vraiment une identité que les vignerons traditionnels n'ont peut-être pas, on va dire. C'est pour ça que justement j'en reviens à que tu disais qu'on n'y a pas vraiment de concurrence, parce que justement, on a tous notre identité, chaque vin est différent, et c'est ça qui fait aussi qu'on n'achète pas un cépage, on n'achète pas un village ou une appellation, on achète un domaine dans ces vins-là, quoi. On achète généralement un domaine.
Donc tu me confirmes aussi qu'un Riesling à Lingenstein, un Riesling à Dambach, c'est peut-être le même cépage, mais c'est pas le même Riesling.
Ah non, c'est pas du tout le même. Hein. Déjà, on est plus sur des vins de terroir, donc non, forcément, c'est pas du tout le même.
Alors qu'un Riesling d'un certain roi et d'un W, ce sont les mêmes?
Ouais, je les ai pas tous goûtés, hein. Je peux pas dire ça, mais ouais, c'est peut-être un peu quand même les mêmes. Enfin, ils ont tous fait la même école, on va dire.
Bon, ils remettraient assez.
Il y a des différences.
je voulais dire une connerie, mais je me suis abstenu. Pourtant, je suis dans le genre connerie, je suis pas mal. Du coup, l'idée, c'est que pour me présenter, je repars toi, parce que toi, je sens que tu as besoin de parler un petit peu. Tu peux me présenter un peu les terroirs qui composent votre domaine ?
Ben, les terroirs Coda, c'est sur le Grand Cru Kirchberg, Coda du Marneau Calcaire. Après, on a pas mal de vignes au pied du Mont Saint-Odile, où là-bas c'est un peu argileux calcaire.
Et tu fais une prière avant de te tresser quand tu vas au...
Ouais, voilà, on fait la petite prière avec le vin, quoi.
Moi aussi, je faisais ça quand je préparais les mets.
Et après, on a la spécialité du village, quoi, le Klebner de Liechtenstein, qui...
On mange toujours vers le Mont Saint-Odile.
Ah, c'est quoi exactement le Klebner ?
Bah très bonne question, même moi je le sais pas. Non, je déconne.
Salut.
Alors le Klebner de Liechtenstein, en fait c'est un AOC du coup, et son cépage est le Savagnin Rose, du coup qui est produit sur une aire d'appellation qui est juste en dessous du village, que le terroir est composé d'ailleurs de silex, grès, et c'était des sols très argileux. Donc, ce qui permet aussi de faire de faibles rendements en été, parce que c'est des sols qui restent assez secs, on va dire. Ça permet de faire des concentrations en jus plus marquées, enfin, sur des notes exotiques ou de fruits jaunes.
C'est quoi c'est le deuxième Savagnin qu'on goûte. C'était quoi le premier qu'on a goûté? Et où?
Peut-être Domaine de la Borde chez Florian Beck. Non, j'en avais ramené un, peut-être, de Savagnin.
Ouais, mais en Alsace. Il y a un autre Savagnin qu'on a goûté il n'y a pas longtemps.
Chez Arthur Boone, peut-être. Mais ce n'était pas un Savagnin, c'était un hybride. C'était un hybride, pour le coup.
Ils n'appelaient pas ça le Savagnin gris ?
Ouais, si, peut-être Savagnin gris, ouais, mais c'est un hybride, pour le coup. Ce n'est pas forcément... Ouais.
On avait goûté un Savagnin gris. Et c'est quoi la famille du Savagnin rose ?
C'est un cousin du Gewürztraminer, non ?
C'est bien Wikipédia. Ah. Traminer, mais justement, donc le Savagnin rose et Gewürztraminer, ils sont très proches en fait.
Ouais, ils sont proches cousins. Hein. Ça vient de la même ville, il me semble, d'une ville, enfin en Tyrol, dans le Tyrol du nord de l'Italie. Très mineur.
On a goûté, donc moi je sais qu'il y a Laffenberg, qui a Bernard Ziller.
Qui a Bernard Ziller, ouais.
Il y a le Salzhof.
Le Salzhof qui est juste un peu au-dessus de là où on se situe.
C'est votre Riesling ?
C'est le Riesling, ouais.
Et vous avez un des 5 contiers en Grand Cru, qui est le ?
Grand Cru Kirchberg, de Bar.
De Bar, parce qu'il y en a un autre à Ribeauvillé.
Voilà, c'est ça.
C'est là où tu vois que les Alsaciens, ça pourrait être simple, mais non ! Ça, c'est un peu plus compliqué.
Ouais, c'est ça. Mais on a quand même l'appellation communale derrière qui nous le démarque.
C'est ça. Et donc, je crois, 11 hectares, c'est ce qu'il t'a dit tout à l'heure ?
Oui, tout à fait, 11 hectares, ouais.
Combien de bouteilles actuellement ?
Actuellement, qu'on sort, on sort à peu près dans entre les 15 et 20 000 bouteilles.
Ah ouais, quand même ?
Ouais, c'est déjà pas mal.
Ah oui, non mais, oui, honnêtement, non mais je pensais par rapport à la reprise, je pensais pas que vous alliez faire autant de 20 août. Ouais, c'est pas mal.
Ouais, c'est correct, on va dire, avec la situation actuelle, on va dire qu'on est plutôt content. Hein.
Et je voulais te demander, est-ce qu'il y a du Klevner ailleurs et du Savagnin ailleurs en Alsace qu'à Liechtenstein, ou c'est vraiment quelque chose de spécifique ici ? Et est-ce que tu connais un peu l'historique, pourquoi est-ce qu'on en trouve ici, si c'est le cas ?
Du coup, est-ce que pour avoir l'appellation, en fait, on n'en trouve que sur l'aire d'appellation communale qui se situe autour de Heiligenstein. Et historiquement, en fait, c'est le bourgmestre de Heiligenstein, si je ne me trompe pas, c'est en 1742 qu'il a mis en évidence le
Klevner. Il s'appelait comment ?
Ered Vans.
Faites les glues.
Et du coup, ouais, c'est lui qui a ramené ce cépage qui provient d'Italie et qui a été à Strasbourg pour le défendre, pour justement que les vignerons puissent planter du Klevner à Heiligenstein.
En tout cas, c'est comme, en fait, ils ont été reconnus par le Civa de l'époque. Je crois que ça s'appelait pas encore le Civa.
Non, ouais.
En 71.
C'était plus sage avant.
Je pense que c'était en allemand déjà, dans le comité interprofessionnel en allemand. Je ne sais pas trop ce que ça donne.
Mais c'est vrai qu'on a cette évolution-là aujourd'hui, finalement, de particularités. Alors, il y en a peut-être d'autres que je connais peut-être un peu moins. Chervillers, on se posait la question avant.
Ouais, les appellations communales en Alsace, c'est assez compliqué.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont compliquées en Alsace. Du coup, tu as un grand cru, ça c'est plutôt une bonne chose, parce que finalement, c'est quelque chose... Alors, nous, on aime bien les grands crus, mais finalement, les grands crus, est-ce qu'ils pêchent pas un peu de leur méconnaissance ?
Ben si, vu le nombre, en fait, on n'arrive plus trop à s'y retrouver aussi.
50 grands crus, ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait quand même beaucoup. Hein. Après, on peut être fier quand même d'en avoir 50. Hein. C'est clair qu'au niveau de la diversité des sols... qu'on a en Alsace par rapport à d'autres régions, je trouve que c'est normal en fait d'en avoir autant.
Ouais, tu sais, il y en a qui aimeraient bien que le Schifferberg soit un grand cru. Hein.
Oui, bah après, moi j'aimerais bien que le Klevner soit aussi un grand cru bientôt.
Mais pourquoi pas, hein. Après, justement, qu'est-ce que tu penses de ce projet alors de premier cru qui est en train de peindre son nez, enfin, en tout cas, la réflexion est là depuis quelques années, mais j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus.
Ouais, mais je sais pas, pour l'instant, je pense que les gens, déjà, ils n'arrivent pas à s'y retrouver avec les grands crus, donc je sais pas si le premier cru, ça va encore avantager tout ça, enfin...
Okay. Et comment ont réagi les premiers clients entre les deux mondes, entre vin nature et vin conventionnel ?
Les clients à nous, donc comment ils ont réagi ? Ben, on va dire qu'on a 80%, 90% qui n'acceptent pas forcément à cette voie-là. Et du coup, ces 90%, on a trouvé d'autres clients, du coup. Une clientèle un peu plus jeune, plus ouverte d'esprit aussi, forcément. Sinon, après, les 10% restants de clients particuliers, surtout, parce que c'était beaucoup des clients particuliers qu'on avait au domaine à l'époque de mon père. Ces 10% là ont apprécié quand même notre travail, quoi, notre façon de faire aussi, d'avoir tourné en fait une page, une grosse page, on va dire.
Les gens qu'on va voir, ils ont la passion qui transpire de partout, ouais, peu importe l'âge, et voilà, juste.
C'est vrai que c'est même
l'idée Kylian Mbappé, bon, une fois c'est moi qui vais le citer, je connais pas bien, le talent n'attend pas le nombre des années, bordel. C'est ce qu'il avait dit. En termes de notoriété, de réputation et de qualité, est-ce qu'il vaut mieux avoir un hectare sur le Klevner de Heiligenstein ou en grand cru ?
Je dirais un hectare sur le Klevner de Heiligenstein.
Oui.
Ouais.
Toi, les gens, ils viennent principalement chez toi pour ça ou pas forcément ?
La clientèle, en termes particuliers, c'est vrai que ils viennent principalement pour le Klebner dans notre village, quoi. Après, forcément, avoir du Klebner, ça ouvre sur d'autres vins. Enfin, les gens vont commencer à appréhender d'autres vins parce que ils ont bien aimé, par exemple, le Klebner, et puis ils vont vouloir avoir l'envie de goûter autre chose. Donc, c'est un produit d'appel un peu.
Du coup, le Klebner, dans la tête des gens, c'est plutôt une réputation assez positive, tu dirais.
Ouais, ça a une bonne réputation en Alsace, on va dire, malgré qu'il y a cette réputation comme un peu comme le Gewürz, où est-ce que ça porte un peu trop sur les sucres, les gens, beaucoup de personnes, de vignerons qui veulent des Klebner un peu sur le sucre. Après, à l'époque, ils payaient même la dîme en Klebner. Hein. C'est se dire que le cépage avait quand même une...
Tu connais un autre pays où tu pouvais payer avec un produit quelque chose ?
Non, justement, j'ai pas connaissance.
À Modène.
Modène ?
À Modène, en Italie.
Avec du jambon ?
Non, pas avec du jambon. Avec des meules de parmesan, ils pouvaient payer leur crédit d'habitation comme ça.
Ah, d'accord. Ouais.
Et en fait, chez vous, vous pouviez payer la dîme, qui est un impôt. Je crois un impôt d'habitation, il me semble, entre une engeance. Bon, en Klebner. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Tu payes tes impôts en Klebner ?
Non, je ne paye plus mes impôts. Non, j'ai qu'à...
On passe un message au trésor public, si c'est possible.
Je paye plus mes impôts, le Klebner est devenu très bon, que finalement, ils sont tellement contents. On leur a donné plein d'émotions. D'ailleurs, il faut que...
T'as un cahier des charges aussi qui te restreint dans les rendements dans le clé ?
Ouais, dans les rendements, on est restreint au niveau des cahiers des charges. C'est 55 hecto-hectares.
Comme un grand cru.
Comme un grand cru, ouais.
J'aime bien la musique, là. Je trouve que c'est très intéressant. Moi, je crois que ce qui est passionnant toujours, c'est l'histoire entre le passé et le présent, entre les transmissions qu'il y a eu depuis 71, ça fait 50 ans, quoi. Quand même pas loin en tout cas.
Ce soir du Klebner, de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'est battu pour mettre un autre cépage et tout, il y en a qui essaient de faire la même chose aujourd'hui et on peut voir que ça peut avoir un impact pour les deux siècles à venir. Quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Et...
Ah ouais, comment tu vois justement ça, où tu as des gens qui essayent de mettre du Syrah, il y a Jean-Yves Farrer, je n'arrive jamais à retenir le cépage qu'il voulait mettre en place. C'est un cépage autrichien qui n'est qu'en Autriche, mais on ne lui a pas donné l'autorisation. C'est plutôt intéressant.
Ouais, ben c'est toujours intéressant. Après, de toute façon, c'est toujours les expériences, on va dire, qui nous forgent. Alors du coup, je pense que justement, pouvoir planter des cépages même anciens ou quoi, c'est toujours intéressant de savoir ce que ça peut donner dans l'avenir, quoi. Et c'est justement en essayant qu'on peut voir les résultats derrière, quoi. C'est clair que si, par exemple, on se ferme sur tout, si on se serait fermé aussi au niveau du Klebner ou quoi... On aurait peut-être jamais eu ce cépage-là, quoi, à produire en Alsace.
Avec ces belles paroles, place à l'art.
À la dégustation, déjà ? Ouais.
Ah, rien, mais on continuera la discussion, évidemment, forcément.
Merkene time, les bateaux, Merkene time.
Présente-nous un petit peu ton chai.
Alors, le chai se compose d'un parc de environ une trentaine de foudres, donc qui commence de 750 litres jusqu'à 4300 litres. Donc, c'est assez diversifié. On est sur un chai qui date des années 2000. Hein. Ça a été construit à cette période-là. On travaille aussi par gravité. Du coup, le pressoir est juste au-dessus de nous. On a nos cuves de débourbage, puis on a un système de refroidissement des moûts comme en été, enfin comme dès qu'on vendange en été, les vins sont assez chauds maintenant, alors on est quand même content d'avoir ce matériel. Et puis ensuite, c'est disposé dans les moûts après, une fois refroidis, puis soutirés, enfin puis débourbés, sont remis dans les foudres pendant l'élevage et leur phase de fermentation.
Fait. Ben, goûtons, t'as ton verre ? T'as ton verre ? Alors, on est vraiment sur une belle couleur. Donc, on est sur le Weinberg, c'est ça ? Le Wein, pourquoi je parle en anglais ? Weinberg ? Weinberg ? En alsacien, on dit Weinberg. Weinberg ?
Weinberg.
Weinberg. J'ai raison ou pas ?
Ah, je sais pas, franchement.
T'es aussi dialectophone que Hedegger.
Moi, j'apprécie particulièrement le degré d'amertume qui est assez présent, mais qui est bien équilibré. T'as quand même pas mal de fraîcheur et c'est super bien équilibré quand même, du coup. En début de bouche, t'as vraiment cette amertume, ce côté orange amer qui est présent, mais ça reste pas en fin de bouche comme certaines macérations. Je trouve que t'as vraiment trouvé le bon, vous avez trouvé le bon équilibre quoi là-dessus.
Ouais, je trouve qu'il y a un équilibre aussi entre les épices. Alors moi, c'est vrai que j'ai vraiment au nez, le premier nez que j'ai eu, c'est ce côté un peu curry, un peu curcuma, un peu. J'aime les plats indiens, c'est peut-être pour ça, je suis peut-être influencé, je sais pas. Tu peux nous en parler?
Ouais, alors du coup, là, on est sur 50% de macération sur une cuve de 37 hectos. Suite à ça, cette macération, on l'a mis à.
Ouais, 7 jours, ouais. Et après, on a mis le reste en pressage direct, quoi. Ouais.
Il me voit arriver avec le micro, il va mettre un coup de boule.
un petit pressage direct qui a été ajouté après l'entonnage de la macération.
Moi, je le trouve gourmand.
Fois sur le Weinberg.
Je le trouve très gourmand. Je le trouve vraiment très bien équilibré. Et je trouve que le côté est bien un peu épicé. J'ai pas souvenir qu'on ait goûté un Gewürztraminer qui a cette présence d'épices, en fait.
Qui a ce profil-là, effectivement, pas tout à fait. Mais du coup, le fait que tu fasses à moitié en macération, il y a la fermentation qui se passe peut-être mieux pour le tout, ouais, c'est...
Du coup, ouais, les moûts ont moins de difficultés, alors clair, les moûts du pressage direct ont moins de difficultés à avoir fermenté, quoi.
Toi, t'en penses quoi de ce petit?
Moi, je le trouve très, très, très bon, et je trouve qu'il est vachement salivant à la fin.
Je trouve qu'il a un goût de reviens-y, comme dirait Soline. Salut, Soline.
Décidé de faire du 50-50 comme ça sur la macération ou au début?
Ouais, c'était aussi des beaux places, quoi. Enfin, on a quand même jonglé avec les jus, quoi.
Non, en fait, tout était une question aussi de place, parce que forcément, pour faire de la macération, il faut une bonne cuverie quand même pour pouvoir faire tout ça. Sachant qu'on voulait faire plein de macérations différentes l'année 2020. Et du coup, par manque de place, on n'a pas pu rentrer tout le Gewürz à travers la macération et le reste, il fallait le rentrer avant qu'il prennent des proportions assez délirantes en degrés. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas rajouter les jus du pressage direct dans la macération après ça. Quoi.
C'est comme une macération qui est assez accessible, je trouve. On n'est pas sur quelque chose de trop, trop extrait. Et même celui qui n'a pas forcément l'habitude des vins oranges, entre guillemets, il peut y trouver son compte. Enfin, je ne sais pas comment vos clients...
Je trouve qu'on est sur un vin orange. Alors, vin orange très accessible, non, tant au niveau... De la robe, parce que souvent, quand c'est trop orange, ceux qui n'ont pas l'habitude pensent que c'est pas du tout naturel. Donc tu confirmes bien, alors on reconfirme, le vin orange c'est naturel ou pas?
Ah oui, c'est naturel.
Le vin bleu c'est naturel ou pas?
Ah ça, je vais pas me pencher sur cette question.
Il y a personne qui s'y est frotté encore. Non mais c'était juste pour dire que c'est vrai que on a souvent peur des vins oranges qui soient trop macérés, qu'on n'a pas l'habitude. Là je trouve qu'on a un très bel équilibre comme tu le dis. Et je pense que c'est quelque chose qui... tu penses le commercialiser dans combien de temps à peu près?
On va espérer... On va prévoir une mise en bouteille pour mai et espérer le commercialiser dès cet été, quoi.
Et il aura quoi comme nom?
Du coup, ça sera pas l'impatient comme la cuvée qu'on a fait l'année dernière. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé.
Pourquoi t'as pris la patience entre-temps ou...
Ouais, on a pris un peu plus de patience, là. On est un peu plus cool sur les vins quand même par rapport à l'année dernière où c'était une année un peu plus stressante pour nous.
J'ai beaucoup aimé l'impatient, mais j'avoue que j'ai l'impression qu'on a monté d'un cran, là.
Ouais, là, on monte d'un grand cran parce que on a une année d'expérience en plus. Ouais, et puis, en fait, après, on va encore vous faire monter d'un cran sur, justement, une macération de Gewürztraminer qu'on a fait sur le Grand Cru Kirchberg de Bar.
Ah, j'aime mon boulot. Non, ça va. Ça va, toi? Oui, fait. Non mais c'est bien, écoutez les gars, hein, on voit du brut de cave, on a des bruts de sourire, on fait un brut de podcast, on est ultra brut. Voilà, cette couleur me dit quelque chose. C'est l'heure là, j'ai l'impression que, en fait, c'était le curé et c'est la communion, tu sais, on fait pareil. Amen. Hein, une messe comme ça, tous les dimanches, t'irais, hein.
Niveau religieux, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais si c'est aussi sympa que ça, écoute, il peut y avoir des...
Enfin, Et vous voulez pas créer un culte laïque avec juste du vin dans les chais?
La Saint-Vincent, ça tombe quel jour?
Le 22 janvier. La robe me dit quelque chose, le nez aussi. On est sur l'impatient, la Michotte. Et c'est qui le plus impatient des deux, là? Parce que du coup, c'est qui le plus impatient des deux?
Moi, je dirais que c'est Clébon, quoi.
Et pourquoi?
Parce qu'il est impatient.
C'est impatient. Et c'est qui le plus impatient des deux?
Hmm?
C'est qui le plus impatient des deux?
On est tous les deux impatients de...
Il se mouille moins que toi, hein. Bon, finalement, t'en penses quoi de... T'avais jamais goûté leur vin avant?
Non, je ne connaissais pas du tout le domaine Gup, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de macération, il y a un côté un peu plus astringent, mais il y a une grosse salinité quand même, et qui vient vraiment te ramener du peps en fin de bouche. Je trouve ça vachement sympa. Justement, une nouvelle fois un équilibre, mais un peu plus sur des extrêmes qui s'équilibrent au milieu, quoi.
C'est quoi là, ouais. Les sols, les...
On est sur des terroirs beaucoup plus calcaires que justement le Weinberg, où ça sera des sols plus argileux. On est sur une autre exposition aussi. Hein, là, au Weinberg, on est sud-est ou sud-ouest. Et le Kirchberg aussi. Et du coup, au niveau des... la différence, c'est aussi que là, ça a été fait en grappe entière. Donc c'est une macération carbonique aussi de 7 jours. Je pense que la différence se fait aussi par rapport à la rafle aussi, qui a ramené un petit peu d'amertume.
C'est vrai que par rapport à l'autre, il y a un peu plus d'amertume, il est un peu plus gras, un peu plus de rondeur, un peu plus de caractère. Mais finalement, c'est bien parce que entre les deux, on est vraiment sur. C'est la base, ça reste un Gewürztraminer, mais on n'est pas du tout sur les mêmes vins. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, et puis c'est toujours agréable de comparer presque deux mêmes vins avec deux mêmes terroirs, mais ils travaillaient carrément différemment, quoi.
Puis on est surtout très loin du Herwick Rose Litchi qu'on essaye de nous refourguer depuis des siècles et des siècles, je dirais pas amen.
Dans les Gewürztraminer?
Ouais.
Ouais, c'est généralement ça qui ressort le plus sur les macérations de Gewürz.
On a un côté floral quand même qui est plus présent sur celui-là que sur l'autre, je trouve, mais qui n'est pas insupportable.
Non, ouais, tout à fait.
Pour tous les membres de la famille, lequel vous préférez entre les deux?
Moi, je préfère l'autre, il est plus léger.
Tu préfères l'autre? One point.
Moi, je préfère justement celui-ci parce qu'il a un côté plus salivant à la fin.
Et toi, tu dois départager. Attention, attention.
Ça va plus s'orienter sur celui-ci parce que justement, il apporte plus de minéralité, je trouve, en bouche.
Donc, 2-1 pour l'impatient. Toi, si tu préfères quoi? Bon, t'es pas de la famille, mais t'es de la famille du raisin des papilles, c'est plutôt pas mal. Bah, tu l'as vite ta bouche? Tout droit, ouais, peut-être. Non, je l'ai pas dit. Je.
D'ailleurs, je crois.
C'est bon, j'ai vidé ma bouche, ça va maintenant.
J'ai failli dire une connerie, mais je me suis abstenu. Lui, il s'est dit, il ne va pas le dire.
Il va pas se permettre. La préférence, c'est ça? Ouais, j'ai aussi une préférence pour le premier.
Et toi?
Je préfère celui-ci, parce qu'il a plus de complexité, je trouve. La salinité, je préfère. Néanmoins, l'autre me paraît plus accessible. Et à ce côté, peut-être un peu plus... Voilà, exactement.
Ok, moi, je préfère l'autre aussi. Bon, bah après... Bon, de toute façon... C'est vraiment pour chipoter, chipotons. Hein. Bon, moi j'ai vu ce que c'est, alors à vous de essayer de deviner ce que c'est. Mais si toi tu sais pas ce que c'est, à mon avis, on va avoir un problème. Celui qui trouve pas, c'est 10 pompes. Il a une couleur qui est juste magnifique.
T'es brioche au beurre, je trouve, t'es vachement intéressant. Hein. Enfin, pain au raisin, brioche au beurre, un peu d'orfait. Enfin, la pète, ça sent.
Mais... Ouais, ça sent.
Moi, j'en connais qui font du vin chaud, justement, avec un des cépages qu'il y a là, et ils rajoutent la confiture de Mirabelle.
Oui, je le connais aussi. Très bon vigneron.
Et toi, il est très gentil. Bonjour.
Bonjour. Du coup, je pense qu'il y a du Sylvaner, parce que je sais que le vin chaud est fait en majorité avec du Sylvaner. Voilà. Voilà ce que je...
Ok. Et l'autre cépage, il y en a un deuxième, c'est quoi? C'est, si tu te trompes, c'est 10 pompes.
Bon, très bien. Riesling.
T'as vu le truc? T'as triché. Non, c'est toi qui as dit. La solidarité féminine. Ok, je valide. Allez, parle-nous de ce petit vin.
Donc là, on est sur un Riesling Sylvaner en macération, donc macéré ensemble. Du coup, là, on est sur 8 jours de macération en grappe entière. Et en fait, là, c'était un essai, c'était notre essai de l'année qu'on voulait faire. Moi, je me suis dit, tiens, il y a une cuve de libre pour faire de la macération, on peut essayer. Et du coup, on est parti sur à peu près 10 hectos de ce breuvage.
Je trouve qu'on a ce côté un peu brioché, comme tu disais, un peu gourmandise, pâtisserie. On a aussi en bouche, après, on va avoir le côté un peu plus gras, un peu plus. Il y a encore ce côté salin qui est dedans, mais également cette acidité que va te donner le raising, mais qui est quand même un peu récupéré et qui est un peu est rééquilibré par le sylvaner. Je trouve que c'est une très très belle découverte.
C'est un peu plus en largeur aussi en termes de toucher de bouche. Je trouve que les autres étaient très verticaux. Et là, on a ce côté pâtissier au nez qu'on retrouve un petit peu en attaque. Et on reste sur cette largeur, en fait. Quelque chose de très, très enveloppant, très réconfortant.
Je verrais bien sur un petit plat thaï. Qu'en penses-tu, mademoiselle ?
Un pad thaï. Hein.
Un vrai pad thaï, hein, pas un pitaïa. Hein.
Un vrai pad thaï, absolument. Ouais.
Tu en fais un quand ? On arrive.
Hein. Ah bien, écoute, rendez-vous est pris. Ah ouais, grand plaisir.
T'aimes beaucoup la cuisine thaïlandaise?
Mm-hmm.
J'ai été en Thaïlande, c'est
vrai. J'ai passé 6 mois en Thaïlande, donc c'était mieux que je commence à aimer la cuisine.
C'est plus intéressant. Quel est ton avis sur ce vin?
Moi, je le verrais bien avec un bon pain paysan, ce vin-là, justement, pour faire appeler le levain du pain.
Ah, très...
De pain, enfin, qui vient en bouche, comme ça.
Je trouve que c'est très intéressant. En ton avis
Moi, je trouve qu'il est très aromatique. Moi, je trouve qu'il irait très bien avec des trucs asiatiques et tout ça. Quoi.
Bah, je trouve qu'on est on a vraiment sur une finesse, mais en même temps, une gourmandise. Quelque chose qui est très...
Résiduel dessus ou c'est complètement sec
1,5 g de sucre résiduel qui reste. On verra s'ils vont reprendre au printemps, mais généralement, dès qu'on a 1,5 g, c'est dur à les faire reprendre.
Mais en tout cas, donc c'est une nouvelle cuvée qui va sortir, ça ?
C'est ça, c'est une nouvelle cuvée qui va sortir cette année, fin printemps, début été.
Eh ben, on va passer un bel été, moi, je vous le dis. Et justement, en termes de vendange, le Klevener, ça se vendange quand ?
Le Klevener se vendange quand ? Assez tardivement, quand même, parce que ça a une maturité, il faut quand même une bonne maturité pour en extraire le plus d'arômes possible.
C'est en même temps que le traminer, Gewürztraminer.
C'est équivalent, oui, c'est ça, c'est en même temps que le Gewürztraminer, à peu près.
Ok, mais c'est intéressant à savoir, parce que c'est vrai que tout le monde ne le sait pas forcément. C'est quoi ton dernier coup de cœur, vin ? Alors, pas forcément en Alsace, hein, ça peut être autre chose. La dernière fois où tu as bu un truc, tu t'es dit « Waouh !»
Mon dernier coup de cœur, vin, la dernière fois que j'ai bu un truc, c'était le GM de Patrick Bouge.
Et toi ?
Ouais.
Ça peut être bière aussi.
Moi, c'était un vin du Jura, mais alors le nom, je me rappelle plus vraiment. Quoi. C'était de l'Arbois, mais après, je sais pas.
T'aimes bien les vins du Jura ?
Ouais, c'est intéressant. Quoi.
C'est quoi le dernier truc que t'as vu ?
Chez nous, un Gewürz 86.
Ah, intéressant. Un vin de toi, de chez toi, pour avant l'amour.
Pour avant l'amour, avec le nerf.
Pour avant l'amour ?
Un Gewürz Traminer.
Ok. Ouais. Klevener. Lequel, macération ?
Non, l'autre.
C'est vrai qu'il a un sourire un peu charmeur. C'est vrai. Après l'amour.
Après l'amour, il y a un petit verre de schnapps.
ouais. Schnapps.
Hein ?
Un petit coin.
De quoi ?
Un petit schnapps au coin, framboise.
Un petit schnapps au coin, ouais.
Après l'amour ?
Un petit armagnac.
Ah, monsieur, et un cigare aussi ?
Non, pas de cigare.
Eh ben, si tu devais définir ton domaine en 3 mots, ce serait quoi ?
Novateur, jeune, impatient.
Novateur, jeune, impatient, t'as quelque chose à rajouter ? Il va me dire non.
Et innovant.
Innovant ?
Ouais.
Ok, moi ça me va bien. Et toi ?
Constructif.
En tout cas, moi je trouve qu'on a passé un bon moment, on était un peu fou, mais il faisait beau, on a bu un peu avant, on a bu un peu pendant, mais je trouve que c'est toujours bien. Merci les amis d'être là et de me supporter.
Bah écoute, avec grand plaisir.
Merci Adrien de me supporter.
Merci à toi.
Comment fais-tu pour me supporter ?
Bah écoute, beaucoup de méditation apparemment, c'est ce qu'on s'est dit.
Ça marche, hein, la preuve. En tout cas, on sait par quoi vous êtes passé. Moi, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Je pense que vous le méritez parce que vous avez la passion dans les yeux et la passion dans le cœur. Et je pense que les gens doivent goûter vos vins. Il y a à la fois de la mélancolie, de la passion, mais je pense que vous avez un bel avenir. Je ne sais pas où on sera la prochaine fois, si j'ai une idée, mais comme je ne diffuse jamais dans l'ordre, je ne sais pas ce que vous aurez. En tout cas, nous, encore une fois, on a la preuve que bah, chez les Alsaciens, on est toujours. On rencontre beaucoup de gens, on peut dire qu'il y a de la gentillesse, de l'accueil, du plaisir. Moi, je suis fier de vous, je suis fier de faire ce podcast-là, pas avec des gens comme vous. Et comme on dit toujours, buvons modérément, buvons libre, buvons Alsace, mettez vos verres là. Comme les quatre mousquetaires. Et je vais entendre un gros, le plus gros. Okay, on va pas casser les verres quand même. Allez, 3, 2, 1, skit.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.